Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici l'histoire de Bruce, un jeune Canadien qu'on a changé en fille dans les années 60. Juste pour prouver une théorie complètement folle selon laquelle être fille ou garçon, c'est une question de choix. Et donc Bruce est devenu Brenda. Et Brenda était tellement malheureuse en fille qu'elle a voulu redevenir garçon. Une histoire vraie qui illustre une folie encore vivante aujourd'hui, la théorie du genre. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel tout à l'heure à la philosophe Peggy Sastre. J'ai écrit cette histoire avec Bettina Servant. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le 22 août 1965, à Winnipeg, au Canada, Janet Reimer met au monde non pas un, mais deux enfants. Deux garçons, des jumeaux. Des jumeaux, elle en rêvait depuis toute petite. Et elle et son mari Ron les baptisent Bruce et Brian. Et les premiers mois passent dans un bonheur absolu. Ils ont eu bien raison d'en profiter. Assez vite, quand elle les longe, quand elle leur donne le bain, Janet s'aperçoit qu'il y a un petit problème avec leur zizi. Elle n'arrive pas à les décaloter, ni l'un, ni l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'arrive pas à tirer la peau qui recouvre leur petit pénis, derrière le gland. « J'ai essayé de forcer, docteur, mais ça passe pas. C'est embêtant pour l'hygiène, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire ?»«
Oh, c'est une maladie congénitale assez connue, madame. Ça s'appelle un phimosis. Mais ça s'opère, hein, vous savez, il suffit de pratiquer une circoncision, une ablation de ce petit bout de peau, là, qu'on appelle le prépuce. » Et ça sera réglé.
En vérité, c'est beaucoup trop tôt pour une opération. La plupart des phimosis disparaissent tout seuls vers l'âge de 6 ans. Et là, ils n'ont que 8 mois. Mais le docteur a dit d'opérer. Alors va pour l'opération. Le 27 avril 1966... Le docteur Jean-Marie Watt se lance donc dans la circoncision des deux jumeaux. Il pourrait très bien utiliser un scalpel, hein. En général ça se fait au scalpel. Mais le docteur Watt vient de recevoir un nouveau joujou, une machine à cautériser électrique. C'est moderne et il a envie de jouer avec son joujou. Alors il commence par Bruce.
Oh shit!
En voulant le circoncire, le chirurgien lui a brûlé le pénis. Tout le pénis. Il ne reste plus à Bruce qu'un tout petit bout de chair calcinée. Alors il arrête là. Brian ne sera pas circoncis. Et il appelle les parents. Un peu emmerdé, quoi.
Bonjour. Docteur Huot, l'appareil. Vous pouvez venir à l'hôpital? Il y a eu un léger problème. Rien de grave.
Rien de grave? Quand les parents apprennent la réalité, c'est-à-dire que Bruce n'a plus du tout de pénis, ils sont sidérés. Un garçon sans pénis, ça va être un problème. Ils le pressentent. Quelques mois plus tard, à la télévision, les parents tombent sur une émission.
Il y a quelques semaines, l'hôpital John Hopkins de Baltimore a annoncé l'ouverture d'une clinique de l'identité sexuelle pour ceux qui souhaitent changer de sexe.
Le directeur de cette clinique, le docteur John Money, est invité à l'émission. Il est docteur en psychologie et en sexologie. Et il a beaucoup de charisme.
Avec lui, le présentateur de l'émission a invité un transsexuel, un homme devenu une très belle femme, grande, blonde, superbe. Sur leur canapé dans leur salon, Janet et Ron, les parents du petit Bruce, sont subjugués. Et forcément, ça fait tilt dans leur tête. Puisque Bruce n'est plus tout à fait un homme sans son pénis. C'est peut-être ça la solution. En faire une fille. Alors quand l'émission s'achève, Janet écrit au docteur Money, qui lui répond dans la foulée. « Venez me voir !» Et donc il le rencontre. Et le docteur dit qu'il a la solution à leur problème. Vous savez, jusqu'à 2 ans, un bébé n'est ni un garçon ni une fille. Jusqu'à 2 ans, les bébés ont, je dirais, un genre neutre. Et pendant ces 2 premières années, eh bien c'est l'éducation, c'est notre culture qui disent « cet enfant doit être un garçon parce qu'il a un pénis ». Alors ce que je vous propose, puisque votre enfant n'a plus de pénis, eh bien c'est de procéder à l'ablation de ses testicules, et vous verrez, il grandira comme une fille. Il ne saura jamais, il ne sentira jamais qu'il est né garçon. Pour autant que vous l'éleviez comme une fille, bien entendu. Comprenez bien que lui, le docteur Money, qui veut démontrer sa théorie fumeuse selon laquelle la différence fille-garçon ne serait qu'une chose culturelle et pas naturelle, ces 2 jumeaux, Bruce et Brian, sont une aubaine. Quand on aura élevé Bruce en fille et Brian en garçon, il aura la preuve absolue de la validité de sa théorie. Le 3 juillet 1967, Bruce est opéré à l'hôpital John Hopkins de Baltimore. Il vient d'avoir 2 ans et il est tout simplement castré. On lui retire les testicules. Et à partir de là, il ne produit plus d'hormones mâles. Au passage, le chirurgien lui crée une vulve, un sexe féminin, pas parfait, hein, mais quelque chose d'approchant. Et après, c'est le docteur Money qui donne aux parents la marche à suivre. À partir de maintenant, messieurs, dames, il faut que vous cessiez de l'appeler Bruce. Hein. Il faut impérativement que vous lui donniez un prénom de fille. Brenda ? Est-ce que ça irait, Brenda, comme prénom? Oui, très bien, très bien. Et vous veillerez aussi à l'habiller en fille, et à lui acheter des jouets de fille. Et j'insiste sur un point. À partir de maintenant, messieurs, dames, vous ne devrez jamais, jamais dire ce qui s'est passé à votre fille. Il n'y a pas eu d'opération. Elle est née fille, c'est essentiel, parce que sinon, le changement de sexe auquel nous avons procédé échouera. Cette histoire doit impérativement rester secrète. Et donc Bruce devient Brenda, une très jolie petite fille. Et sa mère lui achète des poupées. Et lui apprend à faire la cuisine, à coudre. Des trucs de fille, à l'époque. Au début, tout va bien. Une fois par an, les Reimer amènent leurs enfants voir le docteur Money.
Ah, vous voilà. Bonjour, Brenda. Bonjour, Marianne. Bonjour, messieurs, dames. Entrez, je vous en prie.
On sait mot pour mot ce qu'ils se sont dit pendant ces rendez-vous, car le docteur Money a pris des notes. Et oui, c'est la grande histoire de sa vie. Il a bien l'intention d'écrire des articles sur le sujet, dans de grandes revues médicales. Cette scène date de l'époque où les enfants ont 6 ans.
Alors les enfants, dites-moi lequel de vous deux est le chef.
Brenda.
Ben, c'est Brian, puisque c'est un garçon.
C'est toi le boss, Brian?
Est-ce que tu te bats, Brian?
Bah oui, je me bats.
Et toi, Brenda?
Est-ce que tu te bagarres?
Ah non. Je me bagarre pas puisque je suis une fille. Mais les filles, c'est papa.
C'est troublant. Et ça semble confirmer la théorie du docteur Mooney. Si on donne une éducation de fille à un garçon, il devient une fille. Et donc, le docteur Mooney écrit un livre pour annoncer sa découverte. Ou plutôt, annoncer qu'il a la preuve de sa découverte. Et ce livre devient la Bible d'une nouvelle théorie qui court désormais le monde entier. La théorie de la neutralité du genre. Si on est fille ou garçon, ça n'est pas un héritage de la nature, c'est par éducation, par le poids de notre culture. Le problème, c'est que ça n'est pas exactement comme ça que ça se passe chez les Reimer. Et même pas du tout comme ça. La vérité, c'est que plus Brenda a grandi, et moins elle est féminine. Ça saute aux yeux. Ses parents ne voient que ça. C'est un petit garçon déguisé en fille. On lui donne des poupées Barbie. Elle préfère les jouets de son frère. Est-ce que le docteur Mooney ne veut pas voir la réalité? Ou est-ce qu'il ne prend pas le temps de la voir? Quoi qu'il en soit, son livre et les articles qu'il publie ne décrivent pas la réalité de la vie de Brenda. Mais le docteur Mooney s'entête. Dans les séances de thérapie en tête-à-tête avec Brenda, il cherche toujours à la convaincre qu'elle est une fille.
Dis-moi, Brenda, quelle est la différence entre un garçon et une fille?
Ben, la fille, elle a des cheveux longs et les garçons des cheveux courts.
D'accord. Mais il y a une autre manière, tu sais. Beaucoup plus simple. Les déshabiller. Hein, quand un enfant est tout nu, Brenda, comment est-ce qu'on sait si c'est un garçon ou si c'est une fille?
Ben, chez la fille, c'est plat. Voilà.
Et donc, tu es une fille.
Et régulièrement, pour illustrer son propos, il la déshabille. Et il déshabille son frère à côté. Et il prend des photos. Et il leur montre la différence. Tu n'as pas de pénis comme Brian, donc tu es une fille. La méthode Coué. Mais ça ne suffit pas, il le voit bien. Mais il ne le dit pas. Dans les articles qu'il publie régulièrement sur le cas John Johan, comme il dit, il ne donne pas les vrais prénoms, il ne mentionne rien de tout ça. Rien. Alors il monte d'un cran. Quand elle a été opérée, quand on lui a retiré les testicules, quand Bruce est devenu Brenda, le chirurgien lui a fabriqué une vulve sommaire, une simple fente, qui ne ressemble pas en vérité à un sexe de fille. Mais maintenant, il veut lui faire fabriquer un vagin. Elle a 7 ans.
Comme ça, Brenda, ton pipi, ce sera d'éclabousser la cuvette, hein? Le docteur va t'opérer l'année prochaine, d'accord?
Non, je veux pas. Elle est terrifiée. Terrifiée.
Brenda a 7 ans, 8 ans, 9 ans. Elle ne va pas bien. Elle se sent garçon, mais les garçons ne veulent pas d'elle puisque c'est une fille. Et les filles ne veulent pas d'elle non plus puisque elle veut jouer à des jeux de garçons. Elle plonge dans la dépression en vérité. Et elle refuse toujours de se faire opérer. Quand elle a 13 ans, le docteur Moni fait une dernière tentative. Il lui fait rencontrer un transsexuel qui a choisi de se faire opérer. Ça se passe mal. Quand elle rentre chez elle, elle dit à ses parents
« Je veux plus le voir, ce type. Je veux plus voir le docteur Monet. C'est fini !»
À côté de ça, sa voix devient grave. Brenda est en train de muer. Et elle est attirée par des filles, pas par des garçons. Mais le docteur Moni revient à la charge.
Si elle ne veut pas se faire opérer, soit. Mais alors il faudrait qu'elle prenne des œstrogènes. Ça lui permettra d'avoir des seins. C'est essentiel pour l'identité d'une femme, d'avoir des seins.
Mais là encore, Brenda refuse. Ses parents décident alors de rompre le pacte qu'ils ont noué 13 ans plus tôt avec le docteur. Vous vous souvenez ?
J'insiste sur un point. À partir de maintenant, messieurs, dames, vous ne devrez jamais, jamais dire ce qui s'est passé à votre fille. Il n'y a pas eu d'opération.
Janet et Ron Reimer décident de lui dire la vérité. C'est le père, Ron, qui s'y colle. Un jour, il emmène Brenda manger une glace.
Alors, Brenda, tu as 13 ans. Tu as le droit de savoir ce qui s'est passé. Quand tu étais toute petite, Brenda, tu étais un garçon, comme ton frère jumeau, Brian. Mais au cours d'une opération, le chirurgien a complètement brûlé ton pénis. Et c'est là que le docteur Moni nous a proposé de te faire devenir une fille. Mais nous, on ne savait pas à quel point ça allait te rendre malheureuse. On ne savait pas, je te jure. Je suis un garçon. Je suis un garçon en vrai. Oh, alors c'est ce que je veux être. Je veux être un garçon. Je veux redevenir un garçon, papa.
Pendant ce temps, Janet fait la même révélation au frère jumeau, Brian.
Dis, Brian, tu as remarqué que Brenda est un peu un garçon manqué? Eh bien, la vérité, c'est que Brenda est née garçon, comme toi. Brenda est ton frère, Brian. C'est ton frère.
Vous imaginez le choc pour ces deux gamins, de 13 ans. Pour Brenda, qui se dit « j'étais pas fou, j'avais raison, je le savais bien ». Et pour Brian, son jumeau, qui pique une crise de nerfs terrible. Et puis, il y a les parents, ce sont de braves gens. Ils ne sont pas du tout adeptes de théories sur le genre. Ils se sont fait embringuer dans quelque chose qui les dépasse totalement. Ils n'ont pas pensé à mal. Ils ont juste fait confiance au docteur Moni. Et maintenant, ils sont ravagés par les conséquences de cette confiance. Ils s'excusent auprès de leurs enfants. Que voulez-vous qu'ils fassent d'autre? Après ça, Brenda décide que désormais, elle s'appellera David. Il aurait pu reprendre son prénom de bébé, Bruce, pour effacer ses années de mensonges. Mais il choisit un nouveau prénom pour une nouvelle vie. Et David décide de se faire opérer pour retrouver un pénis. Pas des testicules, là on ne peut pas faire marche arrière. Mais au moins un pénis. Et pour compenser l'absence de testicules, il se fait prescrire de la testostérone, l'hormone masculine. Il veut redevenir pleinement un homme. Et puis David décide de se lancer dans un procès contre le chirurgien qui, il y a 15 ans, lui a brûlé le pénis. Et en compensation, il obtient une grosse somme d'argent. Et maintenant, il veut se marier. Et il veut des enfants, mais il ne peut pas en avoir. Sans testicules, pas de sperme, pas d'enfants. Il a 19 ans, quand la femme de son frère Brian lui présente une de ses copines.
David, je te présente Jane. Et Jane, voici David.
Elle a une idée derrière la tête, la belle-sœur. Jane a déjà 3 enfants et elle est mère célibataire. Elle a déjà les enfants que David veut avoir et ça marche, figurez-vous. Le coup de foudre. Et ils se marient. Et David a maintenant 25 ans et apparemment une vie normale. Apparemment. Parce qu'en vérité, des années de thérapie avec le docteur Mooney lui ont mis la tête en vrac. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à reconstruire qu'un pénis. David a la tête en vrac, et son frère jumeau, Brian, aussi. Il ne s'est jamais remis de la révélation que sa sœur était son frère. Et à partir du moment où il l'a su, il ne s'est plus du tout intéressé à Brenda devenue David. Il est parti en vrille. Il a commencé à développer des troubles mentaux. Il vient d'être diagnostiqué schizophrène. Et c'est là, à ce moment-là, que David découvre que le docteur Mooney continue tranquillement de dire dans des conférences et d'écrire dans des articles que la réassignation de Bruce en Brenda est un succès. Il s'accroche à sa théorie foireuse. Alors David va voir son frère.
Il faut qu'on l'empêche de dire ça, Brian. Il faut qu'on parle. Faut qu'on raconte ce qui nous est arrivé. Il faut qu'on dise ce que cet homme nous a fait. Faut pas qu'il recommence avec d'autres, tu comprends? Ouais, t'as peut-être raison.
Ils décident donc tous les deux de participer à un documentaire, de dire publiquement ce qui leur est arrivé. Et ils le font. Mais au moment où le documentaire est diffusé à la télévision, l'état mental de Brian se dégrade. Le 1er juillet 2002, on le retrouve mort, chez lui. Il a fait une overdose, où il s'est plus probablement suicidé. On ne saura jamais, il n'a pas laissé de lettres. Pour David, c'est un trauma de plus. Alors il va sur la tombe de son frère presque tous les jours. Et il lui parle à voix basse. Et à partir de là, lui qui avait recommencé à être heureux, s'enfonce à nouveau dans la dépression. Cerise sur le gâteau, David croise alors un escroc à qui il confie son argent à placer, l'argent de l'indemnisation de la circoncision ratée. Et le voilà maintenant ruiné. Et selon la loi de l'emmerdement maximum, désormais c'est son couple qui bat de l'aile. Sa femme Jane peine à vivre avec cet homme fantomatique.
Je t'aime, David, mais faisons une pause, hein? On ne divorce pas, on fait juste une pause.
Et David plonge encore plus profondément dans la dépression. Le 4 mai 2002, David Reimer se tire une balle dans la tête. Il avait 38 ans. Je sais qu'il y a des gens qui diront « Le cas de David Reimer aurait pu être une réussite. » Mais moi, je suis une preuve vivante que ça ne marche pas. Si les gens ne me croient pas, qui vont-ils croire? J'ai vécu tout ça. Est-ce qu'il faut que je me tire une balle dans la tête pour que les gens m'écoutent? Voilà donc pour cette bouleversante histoire qui se termine par une interview de David Reimer tirée d'un documentaire de la BBC qui m'a aidé en partie à écrire cette histoire. Que nous allons débriefer maintenant avec une philosophe des sciences qui s'appelle Peggy Sastre, dont je signale le dernier livre sorti juste avant le confinement chez Anne Carrière, La haine orpheline. Vous la connaissiez cette histoire, Peggy Sastre ?
Ah oui, tout à fait. Je la connais assez bien parce que j'ai de temps en temps écrit dessus. Et c'est vraiment quelque chose. Enfin, que pour moi, c'est vraiment caractéristique d'un sujet qui m'obsède et me passionne. C'est en fait comment est-ce qu'on peut sacrifier des individus sur l'autel de l'idéologie, en fait. Mmh. Et ça, c'est vraiment un cas clinique, parce que ce que vous dites bien, c'est que John Money, en fait, a sciemment menti pendant tout le processus de sa réassignation qui n'a pas marché. Vous parlez de l'histoire des photos quand il prend les enfants nus. Plus tard,
il y a une dimension légèrement pédophile là-dedans.
Oui, un peu, mais...
Oui. Alors, c'est pas mal souligné dans un certain nombre de documents. Je ne l'ai pas beaucoup retenu, parce que rien n'est certain, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très malsain dans cette scène.
Non, mais ce que je voulais juste préciser, c'est qu'après, quand David, en fait, quand commence à vieillir, en fait, et que c'est très masculin, commence à se faire voir, en fait, Monet va lui montrer des photos d'hommes nus adultes, en lui disant, c'est à ça que les femmes adultes ressemblent, c'est à ça que tu vas ressembler, mais tu restes une femme, en fait. Donc c'est pour montrer jusqu'où est allé son délire, en fait, de pensée magique, quoi. Et voilà, donc le fait que Moni a menti sciemment, ça c'est aussi sorti en 2000 quand il y a eu un livre, en fait, à ma connaissance, qui est le seul sur le cas Reimer, donc c'est que Colin Pinto qui l'a écrit. Et donc au moment de la sortie de ce livre en 2000, en fait, il y a beaucoup d'enfants et devenus adultes, en fait, qui étaient dans la clinique de Monet, qui ont témoigné. Et en fait, à cette époque-là, il y a eu une libération de la parole assez forte et qui montrait en fait que Reimer n'a pas du tout été le seul.
Dans ce cas-là,
c'est le cas le plus tragique. Parce que c'est comme vous dites, il y a la loi de l'emmerdement maximal, il y a une première journée de catastrophe, voilà, il est schizophrène, enfin, bref, il y a tous ces problèmes, tous ces problèmes qui se cumulent. Mais quand le bouquin est sorti sur le cas Reimer, en fait, il y a eu beaucoup d'anciens enfants qui étaient traités par Monet, qui ont dit que la clinique de Monet, c'était l'étoile de la mort pour eux, comme dans Star Wars.
Alors il faut, Peggy Sastre, que vous fassiez un peu de pédagogie, que vous nous expliquiez d'abord qu'est-ce que c'est que cette théorie du genre, puisque c'est dans ce contexte que s'inscrit cette histoire, c'est une idée qui émerge quand ?
Bon, en fait, c'est une idée qui émerge avec Monet. En fait, lui, il a été le premier à dire en fait que le genre n'est pas fixé avant 2 ans, donc voilà, que les enfants sont neutres. Que les enfants sont neutres jusqu'à 2 ans, et lui en fait il pensait que l'expression culturelle et sociale du sexe était en fait un produit à la fois d'anatomie et de l'éducation. Donc c'est pour ça qu'il était qu'il voulait absolument opérer David, parce que sa théorie marchait sur 2 pieds. Il fallait que l'enfant ait des organes génitaux normaux, entre guillemets, normaux de fille, pour devenir une fille, et que l'éducation ensuite marche bien là-dessus. Donc à sa décharge, en fait, Monet à l'époque ne connaissait pas les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui sur comment est-ce que le genre se développe par rapport à une base biologique, hormonale, chromosomique, etc. À l'époque, c'était pas connu, donc on peut quand même lui savoir gré de ça, l'excuser un peu ça.
Alors, l'idée tout de même, parce que dans cette théorie du genre, il y a le raisonnement poussé à l'extrême, tel que le fait le docteur Monet dans cette histoire, et puis il y a des choses qui sont probablement pas totalement fausses. Par exemple, l'idée on est enfermé dans un rôle sous prétexte qu'on a un zizi qui consiste à jouer au petit camion quand on est gamin,
et puis à jouer
gros bras, etc. C'est vrai, ça.
Mais c'est ironique, parce que ça, c'est aussi une théorie du genre. L'idée que les filles doivent être comme ci et les garçons comme ça, c'est aussi une théorie du genre. Et le problème, que ce soit Moni, que ce soit les anti, je sais pas, la manif pour tous, pour faire une caricature, ou aujourd'hui des militants trans très très radicaux, c'est qu'ils ont aussi une théorie du genre qui est en fait contradictoire avec la réalité. Et le problème est là, en fait. Et là, il y a une philosophe, une historienne des sciences qui a aussi beaucoup travaillé sur ce sujet, qui s'appelle Alice Drager. Elle a notamment été aux États-Unis l'une des fers de lance du fait que les enfants ne sont plus opérés d'office quand ils ont des organes génitaux ambigus.
Tout ça pour revenir à l'idée que dans la théorie du genre, parce qu'on aurait tendance assez facilement à tout mettre dans le même panier, n'est-ce pas? Donc dans la théorie du genre qui émerge dans l'après 68, puisque 68 est un mouvement mondial dans lequel on remue les idées.
Ça commence avant, parce que pour le coup Monet c'est les années 50.
Lui c'est les années 50. Ouais. Donc on est quand même dans cette émergence d'après-guerre où on veut tout remettre en question, etc.
Oui.
L'idée que un garçon, parce qu'il a un zizi, est enfermé d'entrer par son éducation dans un rôle de garçon, et une fille parce qu'elle n'en a pas dans son rôle de fille, n'est pas totalement idiote. Ne jetons pas tout.
Non, bien sûr, mais c'est comme partout. C'est jamais noir et blanc. Il y a jamais tout acheté et tout à garder.
Donc le docteur Monet, dans cette histoire-là, fait une lecture quand même extrême de sa théorie, comme s'il fallait prouver l'extrême.
Et le problème, pour le coup, c'est le problème des idéologues, c'est qu'il ne remet pas en question sa théorie quand il voit que les faits ne vont pas dans son sens, en fait. Et même, je pense que mentalement, parce que ça, pour le coup, c'est des processus mentaux qui sont connus. Je pense qu'il avait même pas conscience que ce qu'il avait devant les yeux n'était pas ce qu'il voyait. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette force qui est pour moi monstrueuse dans l'idéologie, c'est que justement ça modifie le réel. Ça modifie la perception du réel, et c'est très très difficile d'en sortir. On voit ça voilà dans l'emprise sectaire, dans beaucoup de ce genre de processus, et pour le coup ce que j'ai au début, c'est le cas Reimer et le cas Monet est vraiment un cas clinique de ce genre de problème, quoi.
Il va très loin, parce que effectivement on peut accepter l'idée que on enferme les enfants dans un rôle par l'éducation qu'on leur donne, ça c'est tout à fait possible, mais lui il dit plus que ça, il dit que la féminité, que la masculinité sont une question d'éducation.
Et
ça, c'est une folie. C'est là qu'est la folie.
Oui, tout à fait. Oui, c'est l'un des plus gros problèmes de sa théorie. Et comme on l'a vu avec l'histoire que vous avez racontée, c'est pas justement un problème de théorie. Il y a des gens qui ont été sacrifiés à cause de ça, quoi.
Il a du monde autour de lui à cette époque-là, votre connaissance?
Ah oui, c'est un gourou. Enfin, c'est comment dire, c'est un gourou, c'est un mandarin, c'est un voilà, il fait toutes les télés, il est très, enfin, c'est une star, quoi. C'est
Alors,
pour le coup, même jusqu'en 2000, ça a été quand le bouquin sur Reimer est sorti, ça a été très très dur de le faire tomber de sa chaise. Hein.
D'ailleurs, publiquement, d'après ce que j'ai vu, il n'a jamais vraiment reconnu qu'il avait eu tort.
Non, pas du tout. Mais ça aussi, c'est classique. C'est classique. Je veux dire, quand on est aussi enfermé dans l'idéologie, c'est très très coûteux d'admettre qu'on a eu tort, en fait.
Mais j'essaye de mesurer l'importance de ce mouvement, en tout cas aux États-Unis, dans les années 50, 60, 70. Mmh. C'est vraiment important ou c'est marginal?
C'est important dans le sens où, comme vous l'avez dit, ça relève en fait d'un mouvement général de on met tout cul par-dessus tête, ce qui est aussi compréhensible. Enfin, je veux dire, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais c'est comment dire, il y a tout ce mouvement en fait de pensée magique, tout est culturel. Si on veut, on peut. Voilà, il y a eu aussi des problèmes avec la révolution sexuelle, genre je sais pas, la jalousie n'existe pas, on va tous se mettre dans des communautés, tout le monde va baiser avec tout le monde, ça ne marche pas comme ça, c'est pas aussi simple. Mais pour le coup, c'est pas une philosophie, une idéologie qui s'arrête aux années 50, 60, 70, on le voit encore.
Il faut le dire, Peggy Sastre, la théorie du genre n'a pas disparu avec la fin de l'expérience autour de Bruce Brenda David Reimer. Elle est aujourd'hui toujours aussi prégnante. Elle est enseignée aujourd'hui dans beaucoup de chaires de psychologie et de sociologie dans les universités. Le débat continue. C'est un débat qui est presque plus grand public aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque.
Bah, tout à fait, et en plus le problème en fait c'est que déjà Monet à son époque, Monet dans ses écrits était déjà délirant, et en fait la théorie du ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du genre inspirée de lui est devenue encore plus délirante, parce que comme je le disais tout à l'heure, dans les écrits de Monet il y a quand même une base anatomique. Il dit voilà que le genre se développe à partir de l'anatomie et de l'éducation. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui chintent complètement le volet anatomique et qui disent que tout est une construction sociale, une construction culturelle, et que on peut déconstruire les normes, les rôles de genre, etc. Alors que c'est pas aussi simple, et c'est pas comment dire. Aujourd'hui, il y a une surestimation des facteurs sociaux, il y a une sous-estimation des facteurs biologiques.
Alors, ça se traduit comment ça ? Il y a des enseignants, par exemple, dans certaines écoles qui font le choix, alors qu'ils sont des écoles expérimentales, hein, qui font le choix de ne pas élever garçons et filles avec les stéréotypes. Donc, prends les poupées qui veut, garçons ou filles.
Voilà,
peu importe.
C'était en Suède, par exemple, quand c'est l'hiver, les petites filles, on les fait marcher dans la neige pour les endurcir, et parce que voilà, c'est pas parce que vous êtes une petite fille que vous devez rester à la maison au chaud et pleurer. Tout est voilà, si on vous modèle autrement, vous aurez plus de potentiel d'ouverture, etc. Donc il y a ça, il y a ces écoles neutres en Suède, aujourd'hui c'est un énorme débat, surtout au Royaume-Uni en fait, parce qu'il y a eu une explosion des consultations dans les cliniques, justement les cliniques de genre, de réassignation sexuelle en fait, de jeunes adolescents qui pensent qu'ils sont trans. Et en fait, il y a tout un débat pour dire que en fait ces enfants-là ne sont pas trans, ils sont juste homosexuels ou lesbiennes. Et qu'en fait, on va appliquer ce que j'ai tout à l'heure, c'est une nouvelle théorie du genre. En fait, on va leur donner des hormones et des bloqueurs de puberté, etc. Alors qu'en fait, dans beaucoup de cas, c'est ce qui se passe souvent à l'adolescence. Voilà, il y a des troubles, enfin, il y a des fluctuations comme ça qu'on veut fixer un peu artificiellement. Et en fait, on revient, comment dire, le problème n'est pas résolu, quoi. Le problème, c'est qu'on a une vision trop strict de ce qu'on appelle le genre, en fait.
Mais il y a des mouvements en France, une partie de la droite et de l'extrême droite française, notamment tout le cercle de la Manif pour tous, qui soupçonnent les pédagogues de gauche, là encore pour caricaturer, de vouloir fourguer la théorie du genre à leurs enfants. Ça n'est pas le cas.
Bah non, mais ça, de toute façon, ça, chaque camp a ses théories du complot.
Bah c'est outrance, hein, oui.
Voilà, du côté de la droite, c'est ça. Du côté de la gauche, ça peut être, même pas de l'extrême gauche. Enfin bref, je sais pas, d'espèce de. Tout le monde a ces genres de théories du complot parce que c'est très facile en fait. C'est des discours qui sont viraux dans le sens où c'est facile à répéter, c'est facile à véhiculer. Vous avez 2-3 éléments de langage et hop, c'est la propagande quoi. C'est un principe assez simple de propagande. Donc c'est pour ça que dans les deux côtés ça marche très bien parce qu'il y a un potentiel de viralité énorme. Mais ça reste, c'est pas la réalité, quoi. C'est la pensée magique des deux côtés, quoi.
Évidemment, ça s'appuie, on le sent bien, tout ça sur le combat féministe. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire deux choses en même temps? La première, c'est qu'il est vrai que l'éducation que nous donnons à leurs enfants en fonction de leur sexe conditionne un peu le rôle qu'ils vont jouer dans la société. Et que de fait, faire jouer spécifiquement les filles à la poupée et les garçons au camion, ça envoie le garçon vers mécanicien et la fille vers mère de famille. Ça, on peut le concevoir, ça n'est pas totalement faux. Mais à côté de ça, on peut ne pas nier non plus ce qui est biologique et sans dans ce que nous sommes.
Ah non, bien sûr. En plus, de toute façon, il commence à y avoir un corpus d'études assez dense qui montre qu'il y a une base biologique, il y a une base biologique en genre. Et ce qu'on a vu, pour le coup, de manière mauvaise avec David Reimer, c'est que malgré les contraintes sociales, le biologique trouve toujours un moyen de se faire jour, quoi.
Oui. C'est étonnant d'ailleurs, parce que dans l'histoire, au moment où David et Brenda, il y aurait toutes les raisons pour que ça marche. Et en vérité, le biologique l'emporte, on est obligé de le constater.
Oui, tout à fait.
Même avant la puberté, quoi.
Non, mais ça aujourd'hui, je répète ce que je disais tout à l'heure, pour le coup, à la décharge de Monet, aujourd'hui, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le développement, le développement du genre n'était pas connu, mais aujourd'hui, on sait que oui, que ça commence bien avant la puberté. La puberté, c'est l'explosion, la puberté, c'est à la limite, c'est la dernière étape, mais ça commence bien avant et ça commence dès la conception, en fait.
Merci beaucoup, Peggy Sastre.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.